Vous écoutez Séquence Parc sur 107 FM et sur le site www.radiobartas.net. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc national des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois pour parler avec des invités d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 13h. Bonjour à tous, nous allons parler ce matin de l'écomusée du Mont-Lozère qui va s'offrir une nouvelle jeunesse. Pour en parler ce matin, je suis donc avec Isabelle Darnas, conservatrice en chef du patrimoine au département de la Lozère. Bonjour Isabelle.
Bonjour Natacha.
Et donc Eddy Balaye qui est chargé de mission valorisation des patrimoines au Parc National. Bonjour Eddy.
Bonjour.
Donc c'est à partir de 1972, 2 ans après sa création, que le Parc National entreprend la création d'un écomusée sur le Mont-Lozère. Pour l'époque, il faut le dire, c'est une démarche particulièrement innovante. Donc qu'entend-on par écomusée en 1972 et qui a conduit ce projet, Eddy ?
Eh bien, un écomusée, c'est un musée, un type de musée particulier qui se met en place en France dans les, effectivement, à partir des années 60, plutôt années 70, et qui, contrairement aux musées qui étaient traditionnels autour d'un thème, d'une époque, s'intéresse plutôt à un territoire dans son ensemble. Donc, c'est vraiment une approche complète sur un territoire. Qui se met en œuvre. Et sur le Mont-Lozère, c'est quelque chose qui est porté par l'un des, on va dire, des papes des écomusées. C'est Georges-Henri Rivière qui a conduit de nombreux projets en France et qui s'intéresse particulièrement à ce projet sur le Mont-Lozère qui démarre pratiquement en même temps que naît le Parc national des Cévennes. Donc il y a une réflexion qui se met en œuvre pendant de longues années. Il faut à peu près 10 ans pour le réfléchir. Et le mettre en œuvre, mais c'est effectivement à partir des années 70 que ça démarre. C'est un écomusée tel que sur le Mont-Lozère, il a été imaginé comme un musée de plein air au départ, c'est-à-dire qu'on avait imaginé d'avoir du bâti traditionnel qui soit valorisé, notamment autour de Mascamargue. C'était l'idée principale au départ, et puis il a fallu rapidement changer un tout petit peu les choses pour investir un lieu au pan de Montvert. Et c'est un bâtiment qui a été construit, un nouveau bâtiment qui a été construit en 1983-84 et qui a ouvert à ce moment-là au public. Ce qui est important de dire, c'est qu'un écomusée, ce n'est pas simplement un bâtiment avec une exposition, mais c'est un réseau avec un ensemble de sites. Pour pouvoir être complet, on a comme ça un musée qui expose une synthèse sur un territoire et puis qui renvoie le visiteur sur différents types de patrimoine. Ça peut être un bâti traditionnel comme un Mascamargue, ça peut être des éléments de milieu naturel. Voilà, l'idée, c'est vraiment de constituer un réseau qui puisse avoir une approche complète sur le territoire.
Isabelle, vous souhaitez peut-être compléter ?
Non, c'est parfait. Non, ça justifie bien le terme d'éco-musée. Hein. C'est le terme d'éco qui est important.
Et donc, ça signifie que la population est associée à ce projet ?
Alors, la volonté dans les concepteurs d'un écomusée tel que Georges Rivière, c'est d'avoir effectivement quelque chose qui soit participatif, qui implique aussi les écoles, qui implique la totalité de la population. Il faisait référence notamment il utilisait l'image d'un miroir, en fait, un miroir dans lequel la population se regarde et qu'elle tend aux visiteurs pour qu'ils découvrent aussi ce territoire. Dans la réalité, c'est vrai que c'est quand même, dans le cas du Mont-Lozère, quelque chose qui a beaucoup été piloté depuis le ministère, en fait, depuis Paris. Et on est dans les années 70, au démarrage du parc, où la population, effectivement, découvre déjà et commence à accepter l'idée d'un parc national sur son territoire. Et accepter aussi l'écomusée, c'est difficile, puisque c'est aussi un écomusée, c'est une façon de patrimonialiser des activités. Et donc ça peut parfois être mal perçu. Donc au démarrage, peut-être que la population n'a pas tout de suite adhéré à cette idée-là, ou du moins à regarder ça un petit peu de manière un peu distanciée. Ce qui n'a pas été le cas ensuite, par la suite, on y reviendra, des formes de participation de la population qui sont sans doute arrivées un peu plus tard.
Notamment dans les collectes d'objets.
Justement, donc, combien d'objets ont été collectés ? Alors, comment, sur quelle période ça s'est déroulé et comment on a collecté ces objets ?
Ben, le nombre, je laisserai parler Eddy qui connaît mieux la collection que moi, mais ce qui est sûr, c'est que dès le début des années 80, fin des années 70, il y a des appels à la population pour donner des objets usuels, des objets qu'ils avaient chez eux, qui étaient des fois remisés, hein, pas forcément en très bon état. Donc il y a une grosse collecte ethnographique qui est en route à la fin des années 70 et qui va perdurer jusqu'aux années 2000 hein, d'ailleurs.
Oui, ce sont des objets qui sont donnés par la population. Tous les objets qui constituent donc à peu près les 2500 objets de la collection de l'écomusée du Mont-Lozère sont des objets qui sont vraiment originaires de tous les villages alentours. Et effectivement, c'est des objets qui ne sont pas forcément en bon état, comme le disait Isabelle, parce qu'il y a des objets en bon état qui, eux, continuent à servir hein, dans les fermes et chez les habitants. Et ça a été effectivement une campagne assez longue au départ, organisée par Odile Rival, qui a été longtemps la personne qui s'est occupée de cet écomusée, et qui est allée auprès de chaque famille aller chercher des objets dans ces années, dans ces années 70-80. Et ça s'est poursuivi ensuite. En fait, c'est le principe d'un écomusée aussi, c'est de collecter régulièrement un petit peu l'évolution de la société, l'évolution des différentes activités. Donc on est arrivé comme ça, effectivement, à une collection qui est modeste par sa taille, mais qui est très représentative de l'ensemble des cultures du Mont-Lozère.
Mais justement, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'objets? Alors quels sont ceux qui sont peut-être les plus caractéristiques du Mont-Lozère?
Alors, en fait, on est face à des objets qui sont liés à l'économie de moyenne montagne, hein, qu'on pourrait retrouver, on va dire, dans l'ensemble du Massif central. Donc, on retrouve des objets qu'on retrouverait un peu partout sur le massif. De plus spécifique, peut-être au Mont-Lozère, c'est peut-être lié au travail de la laine. On a beaucoup d'objets qui sont relatifs à ça, des peignes notamment, des fours qui servaient à chauffer les peignes, des choses vraiment très, très spécifiques au travail de la laine, qui est quelque chose d'un peu insoupçonné aujourd'hui, puisque c'est vrai que sur le Mont-Lozère, on travaille peu la laine maintenant, malgré quelques relances sur par-ci par-là. Et puis peut-être on peut citer tout ce qui touche au seigle, puisqu'en fait on est sur des terres granitiques, et donc on cultivait le seigle, et tout ce qui est lié au travail du seigle, aussi bien dans sa culture que dans sa transformation aussi, on a quand même quelques objets comme ça. Et puis peut-être on peut souligner l'intérêt dans cette collection d'avoir beaucoup d'objets qu'on dit pétassés, hein, c'est-à-dire des objets bricolés, raccommodés, rafistolés, puisqu'en fait, on est dans une économie où on réutilise, on est dans le réemploi en fait permanent, hein, et donc on a des objets qui sont assez intéressants à ce titre-là, et on souhaite aujourd'hui les valoriser aussi dans la prochaine exposition. On aura quand même aussi la place pour ces objets-là, qui peuvent paraître avoir une sale tête, mais qui en fait raconte beaucoup de choses.
Mais d'ailleurs, il y a toujours un travail de persuasion quand il y a ces périodes de collecte, parce que les familles en général n'ont pas envie de donner des objets pétassés, justement, des objets qui pour eux sont dignes de partir à la déchetterie, et au contraire leur expliquer, mais non, c'est les traces d'usage, au contraire, c'est très important et très intéressant pour l'utilisation des objets et la réutilisation régulière des objets.
Il y a peut-être une valeur affective aussi, des objets qu'on ne veut pas donner parce que ça représente quelque chose pour la famille.
Ceux-là, en général, on ne les obtient pas. S'il y a une charge... Alors, il y a une charge affective toujours hein, dans le don. Et d'ailleurs, ça s'est bien vu quand on a relancé les travaux sur le Mont-Lozère avec une réunion publique qui a eu lieu en avril 2019, où on pensait ne pas avoir beaucoup de monde et où on a quand même eu, au pont de Montvert, plus de 35, une petite quarantaine de personnes. Donc, il y a une vraie charge affective sur les collectes, mais qui ne va pas... ils sont contents de donner. Ils sont contents de transmettre le témoignage. Les objets qu'ils n'ont pas envie de transmettre ne sont pas collectés.
En lien donc avec l'exposition, il y avait des actions culturelles qui étaient menées. Donc, quelles étaient ces actions?
Alors, autour du musée, effectivement, il y avait toute une dynamique, notamment qui impliquait des scolaires. Dès le début de l'écomusée, il y a eu des opérations qu'on appelait musée-école, avec des accueils de classes importantes. Il faut dire aussi que dans les années 80-90, c'était un petit peu l'âge d'or des classes transplantées, où on accueillait énormément de quarts d'écoles. Ça s'est un petit peu érodé ensuite par des modifications dans la façon de gérer les programmes et l'accueil des classes. Mais voilà, il y a énormément d'enfants qui ont été accueillis et qui sont toujours accueillis, mais sous d'autres formes aujourd'hui en lien avec, avec le musée. Et puis aussi une dynamique d'exposition temporaire qui a été mise en œuvre aussi à partir des années 90 et qui s'est poursuivie, au départ était relevé d'expositions spécifiques organisées avec des partenaires culturels et puis qui s'est progressivement ouvert sur d'autres champs en lien avec l'action du parc sur d'autres thématiques.
Oui, il y a eu notamment beaucoup d'expositions qui étaient en lien écomusée, archives départementales de la Lozère, avec donc Gérard Collin, Laine Dutu, qui ont été deux protagonistes importants à la fin des années 80, début des années 90. Et il y avait chaque année une expo sur une thématique spécifique. Ça a commencé en 1985, au moment de l'anniversaire de la révocation de l'édit de Nantes. Et du coup, comme cette expo a très bien marché, ça a bien duré une bonne dizaine d'années.
Et ça permet d'explorer des thématiques en lien avec les objets, de pouvoir ressortir aussi, enfin c'est la vocation des expositions temporaires, potentiellement de pouvoir ressortir des objets, c'est pas toujours possible, mais de sortir des objets de la collection qui sont pas habituellement valorisés par exemple. Donc c'est ces occasions-là. Et puis rappelons-le aussi, on le disait tout à l'heure, mais l'écomusée, ça ne se limite pas à l'exposition elle-même. Donc toute la dynamique d'animation qu'il y a sur les sites, de faire découvrir les menhirs, par exemple, c'est l'un des sites importants, de faire découvrir Mascamargue, qui est une ferme aussi sur le Mont Lozère, de faire découvrir aussi les milieux naturels et les liens qu'ils entretiennent aussi avec... avec la population, c'était aussi dans ces années-là où on a mis en place tous ces sentiers thématiques qu'on retrouve encore aujourd'hui sur le territoire.
L'hôpital aussi, sur les Chevaliers de Malte.
Oui, toutes les thématiques, toutes les périodes et toutes les thématiques ont pu être couvertes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est quelque chose qui est évolutif, c'est-à-dire chaque époque apporte aussi son intérêt pour telle ou telle thématique. Et c'est comme ça qu'on enrichit le réseau petit à petit. Mais qui s'enrichit encore aujourd'hui.
Très bien. Donc le musée qui est labellisé Musée de France, donc comme vous le disiez à l'instant, donc constitue la tête de pont d'un réseau. Donc effectivement, il est associé à des sites patrimoniaux et des sentiers thématiques. Donc depuis 2018, rappelons-le, seul le musée est fermé au public pour des raisons de sécurité. Il rouvrira, si tout va bien, l'année prochaine, dans un autre lieu, toujours au pont de Montvert et dans une configuration différente. Est-ce que la requalification du musée était nécessaire ?
Alors, requalification, c'est un terme un peu complexe qui signifie tout simplement qu'on souhaite lui donner un nouveau souffle. Et ce qui s'est passé avec l'écomusée du Mont-Lozère, c'est que c'est une exposition qui avait peu évolué depuis les années 80. Il y avait eu des réflexions entamées pour pouvoir la faire évoluer, ça n'a pas été le cas. Et donc, quelque part, on était un peu arrivé à un point de non-retour en termes de présentation scénographique de l'exposition. Et l'élément déterminant, c'est surtout que le bâtiment est un bâtiment donc des années 80 en béton, très contraignant, avec de nombreuses problématiques de sécurité, comme ça a été souligné. Et donc, il y a toute une réflexion qui s'est menée à partir des années 2015-2016 pour savoir effectivement qu'est-ce qu'il fallait faire de ce bâtiment, de ce musée. Et le scénario qui a été retenu, effectivement, c'est de déménager ce musée et de l'implanter sur un nouveau lieu.
Donc ça fait partie peut-être de l'ADN d'un écomusée de re-questionner quand même dans le temps sa vocation.
Normalement, un musée doit toujours se re-questionner. C'est le fondement même d'un musée. Alors après, tout dépend des équipes qui sont en place et qui mènent la réflexion scientifique. Mais l'objectif, c'est toujours justement de regarder sa propre collection. Enfin, je dis ça quand on est conservateur, sa propre collection avec le regard de son temps. Donc forcément, si on ne veut pas se figer à un instant T, il faut re-questionner les collections. C'est en effet le travail qui est mené actuellement sur l'écomusée.
Et donc en raison de la labellisation Musée de France, un soin particulier a été apporté aux collections. Alors Isabelle Darnasse, comment s'est déroulée cette mission ?
Eh bien, au département, donc nous avons depuis maintenant presque une vingtaine d'années un savoir-faire particulier qui est un peu spécifique par rapport à d'autres départements. D'ailleurs, on est assez unique dans ce domaine-là. On a une compétence en interne d'une personne qui est capable donc de faire des conditionnements adaptés à tous les objets. Donc normalement, quand on travaille dans un musée, on fait appel à des prestataires de services extérieurs. C'est d'ailleurs un travail souvent extrêmement coûteux que de revisiter donc toutes les collections justement en vue d'un déménagement. C'est en général la perspective d'un déménagement qui déclenche ce genre de travail. Donc, de revisiter la collection, de conditionner tous ces objets et forcément, en les prenant un par un entre les mains, ben, les nettoyer, vérifier qu'il n'y ait pas d'attaque d'insectes sur le bois, de moisissures sur les textiles, enfin, faire une espèce de diagnostic sanitaire avant de les mettre en emballage, si j'ose dire, en perspective du déménagement. Donc, quand on a appris au niveau du département, puisqu'on travaille en collaboration étroite depuis longtemps, qu'il y avait ce projet de déménagement des collections, bien le département a proposé son savoir-faire au parc en disant, si vous voulez, on peut signer une convention sur 2 ans à peu près, parce que bien sûr, l'agent qui fait ce travail-là ne travaille pas que pour le parc à ce moment-là. De travailler donc sur l'ensemble des collections, de revisiter toute la collection, de faire ce nettoyage, traitement de tous les objets et de les emballer aux normes de conservation, c'est-à-dire que les objets maintenant sont prêts à intégrer une réserve qui sera complètement aux normes de la conservation de n'importe quel musée digne de ce nom, notamment les musées de France.
Donc, c'est-à-dire qu'ils sont stockés où
Alors, actuellement, c'est toujours dans l'écomusée, hein, puisque le nouveau bâtiment n'est pas sorti de terre. Mais par contre, le travail est terminé depuis le mois de février de cette année. Donc, le délai des 2 ans a été tenu par le département malgré le confinement. Donc, ça, je le souligne. Hein, c'est Sylvain Lière de chez nous qui a fait ce travail et remarquablement. Tous les objets sont conditionnés, ils sont prêts à être déménagés. Donc, certains, ça sera pour du conditionnement temporaire, hein, c'est-à-dire c'est vraiment pour faciliter la manipulation des objets d'un endroit à un autre, il faudra bien les déballer à l'arrivée. Et d'autres, par contre, sont conditionnés de manière définitive dans des boîtes de conservation. Ils pourront donc être rangés sur des étagères et être utilisés par ceux qui géreront la collection comme ils le souhaiteront, que ce soit pour des scolaires ou pour la future exposition permanente.
Ça veut dire qu'il y a déjà eu un choix de fait sur les objets qu'on présentera dans le nouveau musée et ceux qu'on ne présentera pas. En fait, il y a déjà eu ce travail de...
Alors, il y a eu un petit travail d'aller-retour régulier avec Eddy, bien sûr, pour faire un pré-choix de certains objets. Mais le travail de la conservation, c'est vraiment travaillé par matériaux. Donc, on a... Enfin, je dis un, c'est un on de majesté, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait physiquement, mais... Le travail a été fait en fonction des matériaux, donc tous les objets en bois, tous les objets en textile, tous les livres, tous les gravures, voilà, tout ça nécessite des matériaux particuliers et différents selon le matériau d'origine. Il y a les matériaux composites aussi qui sont compliqués. Quand on a un matériel qui est à moitié bois et moitié tissu, il faut arriver à voir quel sera le bon conditionnement pour mettre en conservation le mieux possible les deux matériaux de base. Donc ce travail d'aller-retour a été fait. Par exemple, on a choisi de prendre certains contenants transparents pour justement, en perspective de visite scolaire, que les élèves n'aient pas à manipuler les objets, parce que c'est toujours le gros souci. Hein. On a toujours envie de toucher les objets et il faut les toucher au minimum. Je dis toujours, il faut raisonner avec un objet ancien comme avec une personne âgée. À moins on la secoue, mieux elle se porte. Donc c'est pareil pour les objets. Donc on a pris le parti de choisir des conditionnements transparents de manière à ce que la personne, le médiateur qui fera visiter ces objets-là, puisse ouvrir le couvercle et ne pas faire toucher les objets, mais par contre de les voir sans difficulté. Donc voilà, ce travail d'aller-retour a été fait tout au long du travail de conditionnement. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say.
I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believed in yesterday.
Nous le disions, donc ce bâtiment, ce musée, hein, va prendre la place de la Poste. Hein. Oui. Donc il s'élève sur 3 niveaux, donc il sera mutualisé avec l'office de tourisme. Rappelons que ce projet est porté par la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère. Donc au rez-de-chaussée, il y aura un accueil touristique et une présentation du bien inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Alors sous quelle forme sera présenté le bien ?
Alors il y aura une exposition avec donc des modules permanents qui seront répétés sur les différents hauts lieux de l'agropastoralisme qui sont mis en tente donc par l'entente UNESCO. Donc ces 2 modules vont être présentés au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Et l'entente va préparer également une présentation de type exposition pour que le touriste qui viendra au Pont de Montvert sache que il est aussi au cœur du bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial.
Donc bien qu'il fête ses 10 ans cette année, rappelons-le.
Oui, tout à fait.
Donc un travail est entrepris depuis 2019 avec une équipe de scénographes pour la conception de la future exposition. Donc elle sera au premier étage et s'étendra sur 180 mètres carrés. Donc un comité scientifique a donné son avis sur le projet d'exposition. Quelle thématique lui a-t-il paru importante de traiter ? Qu'est-ce qui définit le Mont-Lozère pour ce comité scientifique ?
Je ne sais pas si tu veux répondre, Eddy. Enfin, on va le faire à deux voix.
Oui, c'est vrai que, quelque part, voilà, on l'a vu, la thématique de l'agropastoralisme transparaît beaucoup dans le nouveau projet. Hein. Effectivement, ce lieu s'inscrit dans le cadre des hauts lieux de l'agropastoralisme en lien avec l'inscription du bien. Et donc, c'est effectivement le fil rouge. Ça va être le fil rouge de cette nouvelle exposition. Et l'intérêt, c'est justement de faire le lien entre une présentation, comme l'a évoqué Isabelle, sur le rez-de-chaussée de ce qu'est le bien inscrit, et puis pouvoir rentrer vraiment dans la spécificité du Mont-Lozère, puisque l'agropastoralisme, effectivement, concerne un territoire très vaste, très large, et il est important de souligner, on va dire, ce qui est plus spécifique au Mont-Lozère. Et c'est l'intérêt de ce bâtiment qui va permettre à la fois d'avoir une entrée, effectivement, touristique, un office de tourisme très largement ouvert en fait en termes de fréquentation, qui va pouvoir donner comme ça accès au premier niveau, qui sera l'exposition permanente sacrée à ce thème. Et au-delà du fil rouge sur l'agropastoralisme, on évoque quand même énormément d'axes qui font le Mont-Lozère, son bâti par exemple, qui est caractéristique, hein, celui du bâti en granit, qui était déjà beaucoup mis en valeur dans le précédent écomusée et qui restera un phénomène marquant, puisqu'on est, rappelons-le, sur des paysages culturels, donc avec toute la dimension bâtie, des activités humaines qui forment ce territoire. Donc on voit bien que voilà, à travers ce fil rouge agropastoralisme, d'ailleurs le terme ne sera sans doute peut-être pas évoqué directement, parce que le terme agropastoralisme ne parle pas beaucoup au grand public, mais on va venir comme ça l'illustrer en quelque sorte, pour le définir, et quand on sortira, l'objectif quand on sortira de l'expo, c'est que quelque part on aura découvert ce qu'est l'agropastoralisme sans vraiment avoir entendu son nom dans l'expo.
Et l'objectif donc à mettre ce zoom sur le Mont-Lozère, c'est qu'en fait l'entente UNESCO entend, si j'ose dire, présenter en fait 4 grands hauts lieux de l'agropastoralisme, justement pour mettre ses focus sur les différentes spécificités. Donc il y aura celui du Mont-Lozère, cet été va s'ouvrir celui du domaine de Boissé, qui est le domaine départemental, où là l'accent sera mis sur l'architecture des Causses, qui en effet est assez différente de l'architecture du Mont-Lozère, ce qui permettra aux visiteurs qui viennent visiter toutes ces régions et qui, pour lesquelles les notions de département ne sont pas très intéressantes, ils ont plutôt l'idée de découvrir un territoire, ils pourront aller sur les Causses, ils pourront aller sur le Mont-Lozère, ils pourront aller à terme à Bar-des-Cévennes pour la partie Cévenole. Enfin, voilà, l'objectif, c'est vraiment de montrer, comme le disait Eddy, les spécificités par territoire d'un phénomène, l'agropastoralisme, qui va même au-delà d'ailleurs de notre région à nous. Hein. Tout le monde méditerranéen est marqué par l'agropastoralisme. Mais c'est vrai que le bien UNESCO a été spécifiquement honoré par l'UNESCO parce qu'il est particulier, parce qu'il y a cette diversité. Et c'est cette diversité qu'il faut arriver à montrer le mieux possible aux visiteurs.
Et justement, donc, quelle forme prendra cette exposition permanente ?
Alors, ce qui a été vu avec une équipe de muséographes, scénographes, hein, qui travaillent actuellement en lien avec l'ensemble des partenaires, et on est sur le principe d'avoir une interprétation donc, de l'agropastoralisme, interprétation presque au sens littéral du terme, on va dire traduire ce qu'est cette langue étrangère que l'agropastoralisme, et ça prend la forme en fait d'une exposition qui sera axée sur trois principaux médias, on va dire. Bien sûr, les objets, on en a parlé, c'est important de valoriser cette collection, même si effectivement on aura sans doute moins d'objets présentés que sur l'exposition précédente. On va avoir une sélection un peu drastique des objets pour retenir ceux qui font sens, éventuellement aussi pouvoir prévoir d'ores et déjà leur remplacement pour pouvoir faire tourner un petit peu les objets de la collection. Ça, c'est donc le premier médium, on va dire. Le second, c'est le son, puisqu'on s'est aperçu que, contrairement aux origines de l'écomusée, où il y avait finalement peu de fonds collectés, on dispose aujourd'hui d'une longue histoire, on va dire, d'études ethnographiques sur le Mont Lozère qui pourrait être mieux valorisée. Donc on va valoriser beaucoup la dimension sonore, en fait, aussi bien les aspects traditionnels, chants, chansons, que des témoignages plus contemporains qui viennent apporter des témoignages du présent sur l'agropastoralisme. Et puis le troisième média, c'est le visuel. Alors on ne va pas retrouver des belles photos, parce que les belles photos, on les aura de toute façon quand on sort du bâtiment pour aller découvrir soi-même ces beaux paysages. Et par contre, la valeur ajoutée qui nous a paru intéressante à travailler dans cette exposition, c'est l'illustration, parce qu'une illustration, ça permet de composer quelque chose, de composer un visuel qui, pour le visiteur, va dire des choses, va raconter. Et finalement, dans cette exposition, on aura peu de texte, mais on aura davantage de volonté de mettre en éveil des sens comme l'ouïe, donc à travers le sonore, et la vue à travers justement une illustration. Et c'est un défi important, parce que fabriquer une illustration, confier à un illustrateur ce récit, cette fresque un peu du Mont Lozère, ben c'est une responsabilité, parce que voilà, il faut effectivement dire tout ce qu'il y a à dire, le dire aussi conformément aux avis du conseil scientifique, et puis aussi s'assurer que ben, ça dure un petit peu dans le temps, que cette illustration ne soit pas désuète au bout de 2-3 ans. Donc il faut patiemment peser tout ça pour arriver à un équilibre, et c'est tout le travail qui est encore en cours actuellement.
Oui, bah moi je suis membre du conseil scientifique, donc je participe régulièrement à ces réflexions, et en effet c'est un véritable enjeu, parce que on a toujours l'impression d'être moderne, mais on voit dans l'histoire que on est toujours moderne qu'à l'époque dans laquelle on vit, et que forcément il arrivera un moment où ça deviendra obsolète. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de trouver, et c'est pas facile, le moment où l'obsolescence va être la plus lointaine possible, pour pas refaire des équipements comme ça tous les 20 ans ou 30 ans, parce que ça coûte quand même pas mal d'argent collectif.
Donc l'ouverture du musée est idéalement prévue l'année prochaine. Donc en attendant de le découvrir, donc tout un réseau de sentiers est accessible, hein, sur le Mont Lozère. D'ailleurs, Eddy, il y a du nouveau depuis ce printemps, donc sur deux sites, hein, donc au Mas de la Barque et à Pic Cassini. Peut-être quelques mots.
Oui, c'est vrai que ben, je le disais tout à l'heure, hein, le réseau de sites et sentiers qui est mis en œuvre sur le territoire par le parc national, mais aussi par ses partenaires, hein, il n'y a pas que l'établissement qui met en place des sentiers, s'étoffe petit à petit. Et donc, dans le cadre du pôle de pleine nature, vous pouvez découvrir un nouveau sentier au Mas de la Barre qui traitera principalement de la forêt ancienne, mais à travers un parcours familial, scénarisé de façon un peu ludique, pour découvrir, suivre un personnage sur la découverte de cette forêt ancienne. Les amateurs aussi de découvertes pourront voir au niveau du Cassini une table d'orientation un petit peu spécifique qu'on a voulu éclater sur différents points. Donc vous ne trouvez pas la vieille table d'orientation en lave émaillée circulaire, mais plutôt quelque chose voilà, en acier corten qui est un peu éclaté sur l'ensemble du site. Et puis une des spécificités voilà, du nouveau dispositif sur le mas de la barque, c'est d'avoir une plateforme ludique accessible à tous les publics, quel que soit leur handicap, et qui permet aussi d'avoir une approche sur la biodiversité sur ce site assez fréquenté. Et pour souligner aussi, effectivement, après cette longue période un peu d'interruption là, d'activité, d'autres initiatives du territoire, hein, je pense notamment au travail qu'a mené le Filon des Anciens sur Vialas, en lien très étroit avec la commune,
Et le département.
sur l'ouverture du sentier du Bocard qui permet de découvrir l'ancienne installation d'exploitation de l'argent sur Vialas. Et donc voilà, ça c'est une initiative effectivement locale portée par la commune et avec de nombreux partenaires on n'en a pas beaucoup entendu parler en 2020, mais le parcours, je vous invite aussi à le pratiquer. Et puis de nombreuses autres initiatives sur le territoire, voilà, mais je vous renvoie sur la plateforme Destination Parc, sur d'autres plateformes partenaires pour découvrir tout ça cet été.
Merci, vous m'avez enlevé les mots de la bouche pour la plateforme. Juste pour citer un dernier projet, donc cet été, il y aura la possibilité d'écouter donc une création sonore, 7 points d'écoute hein, qui seront implantés à la croisée des chemins de grande itinérance dans le cadre d'une résidence artistique qui s'est déroulée depuis un an sur le Mont Lozère et dont le projet sera inauguré cet été. Il s'agit donc du projet Vadrouille, donc qui était piloté par la compagnie, le collectif Lundi Soir. C'est la fin de cette émission, je vous remercie et puis à bientôt. Vous écoutez Séquence Parc sur 107FM et sur le site www.radiobartas.net. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois pour parler avec des invités d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 13h.